Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, la Bibliothèque publique d'information poursuit son exploration liée au travail, à l'exposition Gaston au-delà de la gaffe, que j'espère vous avez tous et toutes visité. Si vous ne l'avez pas encore fait, elle dure jusqu'à la fin du mois d'avril. Et ce soir, nous continuons notre programmation associée à l'exposition avec une soirée un petit peu spéciale autour des 60 ans de Gaston, même si ça peut se discuter, comme on va le voir ce soir, l'âge de Gaston. Et je vais tout de suite laisser la parole à Emmanuelle Payen, qui est une des deux commissaires de l'exposition avec Jérôme Bessière et qui va animer la soirée. Bonne soirée à tous.
Merci Jérémy. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc merci pour votre présence ici et votre participation à cette rencontre. Moi j'ai le plaisir d'accueillir ici, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Franquin, qui est la fille d'André Franquin et qui prend garde en fait, a le souci du patrimoine d'André Franquin et de son œuvre. Sergio Honoré, qui est directeur éditorial aux éditions Dupuis et qui est aussi dessinateur, réalisateur, voilà, et qui accompagne aussi à la fois le patrimoine en fait qui est celui des éditions Dupuis et l'évolution aussi de cette œuvre. Vous nous en parlerez. Et puis Frédéric Janin, qui est dessinateur lui-même, humoriste, homme de télévision et de radio à Bruxelles, n'est-ce pas ? Et qui a été le conseiller scientifique de l'exposition, qui est présentée actuellement à la Bibliothèque publique d'information jusqu'au 10 avril. Voilà, donc Frédéric nous a beaucoup aidé dans l'élaboration de cette exposition.
Et je l'ai fait comme mon devoir.
Et je voulais dire en introduction, en fait, tout le plaisir que nous avons eu, Jérôme Bessière et moi-même, à travailler à ce projet, à le mettre en place. Toute la difficulté également, puisque l'œuvre d'André Franquin est immense. Et on s'en aperçoit au fur et à mesure aussi qu'on entre dans ce projet. Et la mettre en exposition, en fait, la claque murée, la mettre entre quatre murs d'une exposition, c'est quelque chose de difficile, en fait, parce qu'à chaque fois, elle échappe, elle grandit et elle s'impose. Donc voilà, je voulais vous dire et vous remercier tous les trois pour la générosité et la bienveillance avec laquelle vous avez accueilli et accompagné ce projet. De même que les éditions Dupuis, bien évidemment. De même que Christelle et Bertrand Pissavi-Iverno qui ont partagé le conseil scientifique avec Frédéric. Voilà, et toutes les personnes qui nous ont aidés à monter ce projet, y compris bien évidemment toute l'équipe d'exposition. Alors, première question, le Centre Pompidou a 40 ans et nous étions ravis pour ce 40e anniversaire d'accueillir un autre anniversaire qui était celui de Gaston, du personnage de Gaston. Or, voilà qu'il y a quelques instants, j'apprends que Gaston n'a pas 60 ans.
C'est vrai.
C'est sûr.
Ben oui, il est apparu dans le journal Spirou en 1957, mais il était déjà grand. Il avait déjà cette silhouette de grand échalas tout mou. Donc, on peut imaginer qu'il avait déjà lui-même une vie avant d'entrer dans le journal.
Du coup, il a plus que 60 ans.
Sûrement.
Mais non, les personnages de bande dessinée ne vieillissent pas.
Et donc c'est une question, mais quel âge donc a Gaston Lagaffe ?
Vous lui donnez quel âge à peu près ? Pas tous à la fois. Oui, il garde une éternelle jeunesse, mais il est post-pubère tout de même. 32 ?
32.
Ah oui, j'aime bien. C'est bien quand la salle est un peu éclairée. 27, c'est pas mal.
Et donc, en fait, c'est 60 ans de présence dans le journal de Spirou qu'on fête, ou que le Centre Pompidou fête. Mais je ne sais pas si le Centre Pompidou existait avant le Centre Pompidou.
Pardon ?
Je ne sais pas si le Centre Pompidou avait déjà un certain âge.
Le Centre
quand
Pompidou
il a été inauguré.
Existait avant le Centre Pompidou. Ah ben voilà.
Quel est son vrai âge ?
Oula.
À votre avis, quel est le véritable âge du Centre Pompidou ?
En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 40 ans, le trombone illustré est arrivé dans Spirou, donc il a juste 40 ans, et il a vraiment 40 ans, parce qu'il n'avait pas un certain âge au moment où on l'a lancé. Tout ça est passionnant.
Est-ce que vous pouvez en fait, nous dire un peu ou nous raconter quelle a été la genèse de ce personnage, le Gaston d'avant 60 ans,
Isabelle.
Le Gaston embryonnaire, par exemple, en fait,
c'était
qui, c'était avec qui?
C'est un peu compliqué pour moi de répondre parce que je suis née à peu près en même temps que Gaston. Je suis née une dizaine de jours avant, donc je n'étais pas du tout présente au moment de la genèse de Gaston. Mais c'est vrai que Gaston pénètre dans le journal de Spirou d'une manière tout à fait originale pour l'époque, puisqu'il pénètre par ces célèbres petits pas bleus qui sont presque repris jusqu'à l'écœurement dans beaucoup d'albums.
Les pas bleus et les bouches-trous.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un personnage qui est créé vraiment de manière très spontanée, sans aucun calcul. Et il va d'abord animer les trous de mise en page dans Spirou. Et c'est pour ça que parfois il y a des gags en une image qui sont très très en hauteur pour
sur toute une colonne
voilà, sur toute une colonne du journal. Et puis de fil en aiguille, sa présence va s'étoffer et sa personnalité se modifie et se évolue et davantage fixée d'intervention en intervention. Il y a une intervention très célèbre que vous pouvez voir dans l'exposition où il met sa grosse tête, sa grosse tête apparaît devant un article du journal qui est évidemment illisible. Et donc c'est un personnage qui évolue à la fois très lentement et puis, mais c'est ça qui est passionnant. C'est passionnant de voir cette évolution. Et en fait, les deux premiers strips vont être faits en décembre. Il apparaît le 28 février 1957. Et les deux premiers strips vont... il va être mis en strip en décembre de la même année. C'est ça,
la première trahison, comme le disait ton père. Donc, au départ, il devait simplement être là dans le journal et boucher les trous. Oui. Et puis, tout à coup, il entre dans des cases de bande dessinée, ce qui n'était pas prévu au départ. Oui. Et le trait de génie, je crois que dans le documentaire à l'expo, Maurice l'explique très très bien. À l'époque, c'était inconcevable un personnage qui ne soit pas un modèle pour les petits lecteurs. On disait petits lecteurs, hein.
Oui, ils étaient petits à l'époque.
Et donc, Franquin a cette idée géniale et il la propose à Yvan Delporte. Il dit un héros sans emploi, un anti-héros. Mais tout ça, vous le savez, si vous avez vu l'expo, tout le monde est au courant. On ne va pas répéter ce que vous avez déjà vu à l'expo.
Et l'éditeur, depuis, de dire à ton père, mais enfin, monsieur Franquin, arrêtez d'animer ce personnage qui n'a aucun avenir et consacrez-vous plutôt aux aventures de Spirou et Fantasio.
Il a de l'or dans les doigts avec Spirou. Pourquoi est-ce qu'il fait ce truc avec...
Mais c'est ça qui est fascinant avec Gaston, c'est qu'en fait, si on décortique, on analyse le lancement de Gaston aujourd'hui, c'est presque un exemple de marketing réussi, en fait. C'est vrai.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Et ben, c'est très simple, c'est un personnage qui est lancé d'une manière très, très originale pour l'époque et qui est petit à petit qui s'impose. L'attention du lecteur est titillée par les mystérieux pas bleus. Et puis, il y a des interventions qui deviennent de plus en plus pertinentes. Et c'est vraiment un lancement de personnage ultra réussi.
Ouais, ce que je trouve formidable, c'est qu'à l'époque actuelle, où pour la moindre série télé, il y a des script docteurs, des scénaristes, des équipes de scénaristes, et on sait ce qu'on va faire, et puis on le décrit. Là, en fait, Gaston, c'était pas destiné à être un héros de bande dessinée, c'est sorti comme ça, c'est devenu un succès, et en fait, ça n'était pas destiné du tout à être ni même un succès, ni même un personnage de bande dessinée.
C'est juste une inspiration, c'est formidable, je trouve.
C'est juste pour être drôle.
L'envie. C'est quelque chose. On va se marrer, on va remplir le journal avec ça.
C'est quelque chose de spontané et sans calcul. Et c'est ça qui est admirable à une époque maintenant où tout est calculé.
Aujourd'hui, on lui aurait demandé qui est le public cible.
Oui, tout à fait.
À l'époque, Yvan était là, il a sauté en l'air en disant « Ouais, quelle bonne idée !»
Mais à l'époque, peut-être, maintenant, peut-être qu'on présenterait un personnage pareil, on dirait « Mais non, c'est pas viable. »
Non, et déjà, on devrait définir son âge dès le départ.
Tout à fait. C'est un vrai problème.
Et on revient au début de l'exposé. Oui.
Et alors, en 40 ans d'existence, en fait, hein, comment évolue ce personnage et comment évolue cette aspiration en fait, qu'avait cette relation qui unit Gaston à André Franquin ?
On peut imaginer qu'à un moment, Franquin entre davantage dans le personnage de Gaston.
Oui. Mais d'une certaine manière, au début, c'est JDM qui faisait les décors et qui participait
à
l'ancrage, en partie à l'ancrage, et qui rédigeait les textes, qui faisait les lettrages.
Mais qui faisait les voitures aussi.
Oui, évidemment, ouais. Qui faisait les voitures. Et puis, je crois, de fil en aiguille, mon père avait une empathie pour ce personnage qui a finalement pris le pas sur le reste. Il l'a dessiné de plus en plus. Mais c'est un personnage qui s'est façonné petit à petit.
Mais ce qu'il y a aussi, c'est quand il crée Gaston, en tout cas à cette époque-là, il dessine Spirou et Fantasio, il dessine encore Modeste et Pompon, il dessine des tas de culs de lampe, il dessine la rubrique de Starter. Donc il a une production pléthorique. Et puis à un moment, il abandonne petit à petit Starter.
Et Modeste et Pompon.
Modeste et Pompon.
En 59.
Et il abandonne aussi Spirou. En fin des années 60. Donc il rentre de plein pied dans Gaston.
Tout à fait, oui. Et alors s'il y a en fait, si on peut déterminer quelques étapes dans l'évolution du personnage, en fait, vous...
Moi je les vois un peu en album, les étapes, parce qu'il y a le chéquier, et puis pour moi les albums en format à l'italienne, c'est vraiment une époque particulière, et puis on le met en format A4, en format d'album. Les gags sont allongés en une planche.
En une planche. C'est peut-être le premier compromis commercial.
Tout à fait. Je trouve que c'est... moi, j'ai une certaine préférence pour la mécanique des gags en deux strips. Et je trouve que parfois, les gags en une planche, il est un peu obligé de rallonger et que l'impact est moins fort. Mais aussi... ça, c'est tout à fait personnel comme opinion.
Dans le journal, il y a aussi une différence entre les gags en deux strips l'un au-dessus de l'autre et les gags en deux strips sur deux pages. Un strip à gauche, un strip à droite. Et là aussi, visuellement, on a une toute autre
approche. C'est pas la même chose.
Approche.
Tout à fait. Oui.
Mais tout de même, pendant quelques années, Gaston n'est pas du tout envisageable comme un modèle pour les lecteurs.
Non.
Alors qu'à un moment, il le devient.
Oui.
Alors, ça, c'est vraiment tout à fait inconscient. Enfin, c'était pas stratégique.
Oui. C'est quoi c'est la... oh, pardon.
Oui, pardon.
Non, c'est les années 1970, 70 pour les Français qui sont dans la salle.
Moi, je dirais que 65, le moment où le Spirou est tout en couleur et où il y a les débuts en direct de la rédaction, Gaston devient petit à petit quelqu'un auquel le lecteur a envie de ressembler, ou le lecteur a envie de faire partie de la bande de copains, parce qu'ils ont l'air quand même beaucoup plus marrants que tous les gens sérieux qu'il y a autour.
Tu situes ça à peu près?
C'est trop tôt. Je dirais 65, mais c'est pour dire un chiffre. De toute façon, on parle que de chiffres depuis le début. Quel âge il a, Gaston?
Alors, on a beaucoup parlé aussi des engagements de Gaston et des différents positionnements qu'il a pu avoir, ou des valeurs, en tout cas, qu'il a portées, surtout à la fin des années 60, au début des années 70.
Oui.
C'est un parfait reflet de l'époque.
J'interromps parce que là, c'est vraiment quelque chose qui me fait rire, parce que là aussi, il a énormément évolué, parce qu'il y a un gag d'un des albums format à l'italienne. Je ne sais plus du tout le numéro de la planche par cœur, mais la fin du gag, c'est Gaston qui vaporise du DDT et qui dit « c'est tout de même chouette le DDT ». C'est vrai. Vous replongez-vous dans les albums, vous allez la trouver, cette planche. Donc, il revient de loin, d'une certaine manière.
Mais au tout début aussi, il se moque dès les premières planches de l'armée, par exemple.
Le tout premier gag avec les noix.
Oui, ouais. Tout à fait.
Ouais. Il renverse un sac de noix et un cortège militaire qui vole par terre.
Mais il ne le fait pas exprès. C'est l'auteur qui se moque de l'armée. Mais Gaston, il ne se moque pas. Il a renversé un sac de noix. Et c'est ça, cette dualité aussi. C'est, dès le premier strip, il montre qu'il est contre l'autorité, mais c'est plutôt l'auteur qui est contre l'autorité.
Oui, mais bon, c'est involontaire aussi de la part de Gaston, comme tu l'as dit.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi dans l'évolution du personnage où justement Gaston... prend le pas, justement, et se met à assumer, peut-être plus qu'il ne le faisait au départ, des positions qui sont aussi celles d'André Franquin?
Ça correspond à peu près à l'évolution d'une époque. Il y a certainement mai 68 qui est quelque part au milieu de tout ça. Oui. En même temps, c'est le moment où Delporte est viré de Spirou. Oui. Enfin, curieusement, c'est comme s'il y avait une charnière à ce moment-là.
Oui.
Et donc, à la fois, le journal commence petit à petit à déplaire un peu à Franquin et Delporte. Et ils se sentent tous les deux l'envie... C'est compliqué à résumer, mais il y a aussi l'école française qui débarque à ce moment-là. Donc, fin des années 60, il y a tout de même... La bande dessinée belge prend un petit coup dans l'aile, devient un petit peu ringarde. Et Franquin est sensible à ça, je crois.
Il est aussi sensible à l'actualité. C'est vrai que comme c'est quelqu'un qui lit énormément, et c'est vrai que certains événements, il lisait Life, le magazine Life, avec des très beaux reportages photos, et il y avait des reportages qui le touchaient énormément, bien sûr. Et voir de plus en plus de publicités pour des maquettes d'avions militaires dans Spirou, et lire en même temps des articles sur la... C'était la guerre du Vietnam. Eh bien, en fait, ça l'ennuyait énormément.
Il y a ça, et l'école de Marcinelle se ringardise un peu. Franquin et Delporte ont des copains en France qui font des choses peut-être un peu plus...
Oui, il y a des pages d'actualité dans Pilote. Et donc, je pense qu'il... Enfin, j'en suis certain qu'il les lisait, et que ça devait aussi se dire, ah oui, il y a peut-être... peut-être qu'on doit s'engager un tout petit peu plus. Et Franquin, c'est un petit peu plus engagé. Il y a quelques planches où il adhère à Greenpeace. On voit les Gaston qui regarde la télé, et on voit une mouette toute mazoutée. C'est une planche triste d'ailleurs, où c'est un constat très, très triste. Et donc, il met son engagement dedans, mais qui correspond aussi à sa vie. Il s'est engagé sans trop s'engager.
Oui,
il se défend. Hein. Il s'est toujours défendu d'avoir vraiment un engagement politique. Mais tout de même, quand on lit les planches...
C'est quelqu'un de trop modeste aussi que pour prendre un flambeau et commencer une véritable contestation. Mais par exemple, il a contribué à un journal belge dit de gauche qui s'appelait Pour.
Et on voit l'exposition d'ailleurs.
Oui, qui a été incendié par des militants d'extrême droite. Donc il y a toujours cette sympathie... plutôt de gauche. Oui.
Alors, une multiplication, enfin une complexité, enfin des thématiques très diverses qui sont abordées dans la série Gaston. Petit à petit aussi des positionnements peut-être plus affirmés, ou en tout cas audacieux aussi pour l'époque. On a été frappé de l'affluence du public à l'exposition et de la dimension intergénérationnelle de ce public, avec beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes gens. Que dit Gaston ? Que dit le personnage qui vient jusqu'à nous, en fait, et qui, justement, vient rencontrer des problématiques qui sont des problématiques contemporaines ?
La première chose que Gaston dit, et c'est peut-être ça qui est universel, c'est que le monde peut être drôle. Il y a moyen de s'amuser avec le monde autour de soi, avec une vie de bureau, il y a quand même moyen de s'amuser. Et c'est ça qui nous donne tous envie. On a tous quand même envie de s'amuser avec le monde dans lequel on vit. Et lui, il y arrive. C'est ça qui est formidable.
Et c'est audacieux.
Ouais. Oui. Et je crois qu'en lisant... Alors, il y a 900 gags à peu près. Alors, on peut lire un gag et se dire « Ah oui, ça raconte ça, ça raconte une mécanique. » Mais au-delà de ça, il y a un vrai esprit... joyeux. Et c'est ça qui est formidable.
Et qui est aussi le reflet d'une époque, puisque les gens autour de Gaston étaient particulièrement sérieux. Mmh. Hein, c'était curieusement, parce qu'on était quand même à la rédaction d'un journal de bande dessinée, donc on aurait pu croire que tous les autres étaient des grands fantaisistes, mais non. Mmh. C'est lui qui prend le rôle de tout pour s'amuser.
Le monde du bureau, à l'époque de la naissance de Gaston, était terriblement terne, était terriblement manqué totalement de fantaisie, c'était l'efficience.
Pas que les bureaux d'ailleurs, hein. L'ensemble
oui,
du monde.
Oui,
il y avait
oui l'ensemble
beaucoup
du
de
monde
gens en costume gris.
Oui, oui. Oui, c'est drôle parce que c'était un monde qui manquait singulièrement de couleurs par rapport à ce qu'on perçoit maintenant. Les couleurs, les gens étaient habillés avec des couleurs, les hommes particulièrement avec des couleurs convenables, des costumes gris, bruns, des pardessus gris, sombres. Et Gaston avec son pull vert, évidemment, et ses blue jeans, et puis ses espadrilles, est totalement...
En décalage.
C'est presque inimaginable.
C'est vrai qu'on peut se demander comment serait un Gaston d'aujourd'hui, comment ferait-on pour montrer un personnage qui est en décalage complet,
parce que
le monde est de toutes les couleurs maintenant.
Oui, parce qu'aujourd'hui aussi, il faut être drôle partout. On regarde la télévision, il y a des émissions comiques, mais alors à foison et à n'en plus finir. Avant, on s'écrivait avec « Veuillez agréer », maintenant on met des smileys. Donc effectivement, l'humour se doit d'être partout.
Ouais.
Donc on se demande, mais qu'est-ce que ferait Gaston? En fait, il serait extrêmement sérieux aujourd'hui.
Peut-être.
Ou sinistre.
Je pense qu'il ferait un véritable flop commercial. Non.
Je ne sais pas.
Vous parliez à l'instant de la colorisation, en tout cas des couleurs. Donc, bonne transition pour aborder cette question. Ce travail, en fait, que vous avez réalisé. Depuis plusieurs années.
À peu près 7 ans.
Voilà.
10 ans à la grosse brosse, mais ça fait 7 ans.
Frédéric et Sergio, avec la complicité d'Isabelle également. Voilà.
J'étais le droit moral perché sur l'épaule de Frédéric Jeannin pendant tous les essais.
Ah oui, ou bien comme un arbitre de tennis.
Parfois, on allait manger des glaces.
Est-ce que vous pouvez nous parler à la fois de la nécessité que vous avez ressentie à un moment donné de travailler à cette recolorisation du travail en lui-même, et quelle lecture, justement, cette recolorisation permet de faire, quelle nouvelle lecture permet-elle de faire de la série, en fait, et de son contenu?
C'est fin des années 80 que toute la collection a été...
En fait,
toi, tu es un petit historique.
Bah oui, en fait,
Sergio, honoré.
Voilà, quand je suis arrivé chez Dupuis, j'ai regardé à la fois Spirou et à la fois les albums de Gaston, et j'ai dit, mais ça ne ressemble pas du tout aux albums de Gaston que j'ai. Comment ça se fait? Les couleurs sont passées, le trait n'est plus plein, etc.
Et les couvertures.
Et donc, j'ai un peu investigué, et puis on m'a expliqué, ah bah oui... À l'époque, on imprimait des albums avec des films photographiques. Et comme Gaston et Spirou, d'ailleurs, de Franquin, sont des succès, on a fait des copies de ces films. Et puis, ces films ont été recopiés. Et puis, on a fait des copies. Et en fait, vous connaissez, hein, si vous n'avez fait jamais des copies de cassettes VHS, bah, au bout de 3 fois, l'image, elle est dégueulasse et on ne voit plus rien. Et en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est que la transmission technique des couleurs et du trait, en fait, avait subi une dégradation au fil du temps, mais qui était extrêmement importante. Et donc, je dis, mais il faut revenir à ce qu'on avait avant. Et comment on fait? Voilà.
Ça, c'est l'aspect technique, mais il y avait aussi l'aspect éditorial. Les couvertures étaient tout à fait... il y avait une espèce de collection, c'est à ça que je faisais allusion.
Oui,
donc il y avait un petit Gaston découpé au-dessus, une couleur de fond et un demi-gag en dessous, et un gros numéro pour que les gens achètent toute la collection et qu'ils aient tous les numéros. Oui. Alors que Franquin avait tout de même fait des couvertures magnifiques, parfois en couleur directe.
C'est vrai.
Et quand tu es arrivé chez Dupuis, le premier boulot a été de remettre ces belles couvertures.
Ouais, parce que
à ce moment-là, on ne se disait pas qu'il y avait peut-être du boulot dans le recoloriage des planches. C'est venu un petit peu plus tard.
Ouais, c'est venu après. Oui.
Mais on s'est aussi rendu compte que tout Gaston avait été recolorié fin des années 80.
Oui, et que les ciels étaient mauves et violets.
Les mêmes espadrilles du début à la fin. Il faut savoir que à la petite semaine, Gaston, il a des espadrilles orange d'abord. Et puis un jour, il y a un lecteur qui lui envoie. Il y a plusieurs lecteurs qui envoient des espadrilles de couleur. Et la semaine suivante, il a les bleus. Les bleus un peu turquoise. J'avais envie de le dire. C'est tout ce que j'avais à dire.
Bon, alors après, il a fallu se mettre au travail.
Oui, on a fait des essais d'abord, parce que c'était peut-être compliqué de recolorier tout. Moi, en tout cas, j'avais une espèce de rêve de petit lecteur. C'est c'est de corriger les erreurs, simplement. Il y avait de temps en temps une oreille qui était blanche ou un œil qui était rose alors qu'il fallait du blanc. Et ça a commencé par juste essayer d'arranger les bidons et de corriger les erreurs. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être plus de boulot.
Mais c'est-à-dire que déjà, moi, je pouvais témoigner que quand mon père recevait le Spirou à partir d'une certaine époque et qu'il l'ouvrait et qu'il voyait ses planches imprimées, il était vraiment dégoûté parce que les couleurs étaient lourdes, les couleurs étaient appliquées sans aucune cohérence. Souvent, elles empiétaient sur les éléments moteurs du gag. Ça fait que le gag s'affaiblissait, la lisibilité de la planche s'affaiblissait. Les couleurs que lui avait imaginées n'étaient pas du tout celles qu'il voyait. Donc, c'est imaginez-vous dans la peau d'un créateur qui découvre son propre travail, ce en quoi il avait mis tellement d'énergie et de soin, abîmé à ce point-là, mais c'est une grosse épreuve de chaque semaine. Et il n'y avait pas que Gaston, à partir d'un certain moment aussi, il y a eu Spirou, et le point culminant, c'est la dernière aventure de Spirou, c'est Panade à Champignac, qui est vraiment Ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait créé.
Il faut s'imaginer. Alors aujourd'hui, on se dit il y a le travail du scénariste, il y a celui du dessinateur et le coloriste, c'est un travail artistique en adéquation avec ce que le dessinateur a imaginé. À l'époque, pas du tout. En fait, il y avait un journal à faire et donc le coloriste qui faisait la page de Gaston, mais en fait, il faisait tout le journal. Et donc, il coloriait de la même manière Boule et Bill, Gaston, Bugdani, les castors, enfin tout. Tout passait, parce qu'on faisait la semaine, on faisait pas un album et on faisait pas les gags de Gaston les uns derrière les autres, on faisait toute la semaine.
Il faut dire aussi que Dupuis n'était pas que éditeur, mais imprimeur.
Ouais. Ce qui est assez paradoxal.
Et comme c'était pas...
Mais plus maintenant.
C'était pas renommé comme le meilleur imprimeur de la région, c'était parfois un petit peu embêtant. Il y avait à l'époque le journal de Tintin, qui était vachement mieux imprimé. Pourquoi ? Parce que l'éditeur avait comme client un imprimeur.
Casterman.
Client ou fournisseur ? Fournisseur. Et donc, si c'était mal imprimé, l'éditeur pouvait dire « je te paye pas parce que c'est mal imprimé ». Dupuis ne pouvait pas se faire ça à lui-même.
Et en plus, les Spirou étaient imprimés sur du papier qui n'était pas d'une... qualité extraordinaire.
En fait, avec beaucoup de bois dedans. Alors, je ne sais pas si à la chiotte, c'était très agréable.
Alors, est-ce que vous pouvez, Frédéric, nous expliquer comment s'est fait ce travail, par quelles étapes vous êtes passé aussi
Dans le meilleur des cas, on essaye de récupérer l'original pour pouvoir scanner l'original. Justement, comme l'expliquait Sergio, parce que les documents qui étaient chez Dupuis étaient parfois abîmés. Donc, le rêve, c'est d'avoir accès à l'original, de pouvoir le scanner en bonne définition, de repartir du coloriage existant, comme ça on ne doit pas tout refaire à partir de rien. Et alors, on se réunissait, on se disait au fond, ça se passe où ? Dans le couloir, dans le bureau de Gaston, dans la salle de réunion, dans la salle où de Messmaker vient signer les contrats. On s'est un petit peu penché là-dessus.
Il y a eu aussi un travail préparatoire au cours duquel on a repris les albums et on a fait une liste planche par planche, dessin par dessin, de tout ce qui n'allait pas.
Ça, tu as fait. J'ai gardé l'album, d'ailleurs.
Ah oui,
c'est un collector avec toutes tes notes tout autour.
Et donc, on est aussi parti de là.
Oui.
Et puis, il y avait aussi une vision d'André Franquin qui était de dire l'action ne peut pas être perturbée par ce qu'il y a à l'arrière. Donc, il faut toujours une grande lisibilité de l'action. Et là aussi, ça exigeait de mettre certaines couleurs...
C'est vrai qu'on ne pouvait pas mettre des couleurs trop vives à l'arrière-plan. Et comme dans la rédaction, il y a souvent des posters punaisés à l'arrière-plan, il fallait...
Avec des femmes nues.
Avec entre autres. C'est important que le gag soit lisible en premier lieu, donc l'avant-plan.
Et puis, il y a eu aussi un gros travail que vous avez fait, c'est sur la décoration de l'époque. C'était...
La couleur des voitures,
par exemple.
Là, on a demandé de l'aide de Thierry Culifort. On peut le dire, c'est le moment de dire. Il est dans la salle ? Non. Il nous écoute ? Non.
qui est le fils du dessinateur Peyot, qui est un grand passionné de voitures. Et donc, on a revu toutes les planches où il y avait des voitures pour que les couleurs, d'abord les identifier, et pour remettre des couleurs plausibles à ces voitures. Parce que quand on regarde le travail de mon père, autant dans Spirou que dans Gaston, c'est quelqu'un qui avait à cœur d'avoir une réelle cohérence dans ce qu'il faisait, et qui n'allait pas mettre une couleur ou mettre un objet qui rende les choses, sa planche, incohérente. Et justement, il y a aussi cette question de lisibilité qui était excessivement importante.
Il y a encore un autre détail auquel je songe, c'est les couleurs peau. Quand on voit les dessins en couleur directe de Franquin, la peau n'est pas orange, comme la plupart des couleurs peau dans la bande dessinée franco-belge, où presque tous les personnages, je sais pas, ils ont mangé trop de carottes, mais ils sont orange.
Et parfois, ils sont même jaunes.
Ah oui.
Dans beaucoup de planches, dans beaucoup d'albums, la peau de Gaston est jaune.
Ouais, ça va bien avec le pull vert.
Ça fait pour, hein.
Alors, comment ce travail de recolorisation permet de remettre au premier plan, ou en tout cas de souligner l'extrême minutie et du travail, de l'art graphique d'André Franquin et son souci du détail, qui était une des particularités de son travail aussi.
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, comme Frédéric avait commencé à le dire, on a aussi essayé d'imaginer où étaient les personnages. C'est-à-dire qu'on est au sein d'une rédaction, il y a un immeuble avec l'entrée de l'immeuble, les couloirs, l'ascenseur, les escaliers,
le vestiaire,
la salle de réception,
les
lavabos, les bureaux.
Le bureau de Demoiselle Jeanne qui doit être aussi reconnaissable.
Le bureau de Boulier qui doit être aussi reconnaissable. Mmh. Et donc les couleurs des murs ont aussi été un choix pour renforcer la lisibilité du gag, c'est-à-dire que pour que le lecteur sache que les couloirs sont dans la bande dessinée, effectivement.
Pour qu'on s'y retrouve.
On s'y retrouve. C'est-à-dire qu'en fait, les couloirs pour mon père étaient bleus, mais il y a certaines planches où les couloirs étaient mal coloriés. Et donc, en fait, on ne savait plus exactement où étaient les personnages. Donc, on a dû vraiment les replacer dans l'immeuble.
Et il y a encore une chose importante, c'est qu'on ne peut pas colorier de la même manière une planche de 1958 qu'une planche de 65.
Tout
Je pense d'ailleurs que 65, le moment où démarre en direct de la rédaction et où on voit des dessins de Franquin en couleur directe, qui sont des merveilles, il y en a quelques-uns à l'expo, c'est un moment où on peut ajouter un peu plus de matière et un peu plus de vigueur dans la couleur, parce que le dessin devient de plus en plus bouillonnant.
Oui.
J'utilise le terme. T'aimes bien quand je dis bouillonnant. Donc comme c'est un dessin qui est de plus en plus nerveux, on peut se permettre d'ajouter un petit peu de l'émotion dans les joues, par exemple, sans en abuser. Enfin, il y a tout un dosage subtil, mais c'est hors de question dans les premières planches de rajouter de la matière dans les joues, par exemple.
Mais les premières planches aussi sont très simples. C'est vraiment le gag à l'état pur. Et il y a des éléments de décor, mais ils sont réduits au strict minimum. Et au plus ça va, au plus les années passent, au plus mon père étoffe les accessoires, le décor, il y a des trognons de pommes par terre, il y a un camembert qui fuit par terre aussi. Et donc, tout ça finit par devenir beaucoup plus touffu. Et il faut tout colorier. Il faut tout colorier en donnant, par exemple, à un vieux livre, une couleur de vieux livre. Une batte de baseball, il faut la colorier aussi de manière cohérente, enfin de manière lisible et cohérente. Il faut assurer la cohérence et la lisibilité, ce qui parfois n'est pas très facile.
Quand on voit les bandes dessinées de l'école de Marcinelle, il y a parfois des personnages entièrement silhouettés dans une couleur. Oui. L'exemple le plus frappant, c'est dans Lucky Luke. Mm. Je crois que ton père ne voyait pas la nécessité de faire ça. Donc il y a peut-être, surtout Gaston, une ou deux cases où il y a des personnages en silhouette. Parce qu'il ne voyait pas l'intérêt, il trouvait que c'était plus intéressant d'avoir toute la couleur. Et donc, je sais qu'il y a une case, je ne me rappelle plus du numéro, mais une case qui maintenant est entièrement coloriée, alors qu'à l'époque, elle était en silhouette, à l'arrière-plan.
Laquelle ?
Je ne sais plus, je te raconte, je te montrerai. C'est celle avec les chats, tu sais, où ils sont épuisés à la fin. Et...
Ah,
enfin,
oui,
enfin, peu importe. Ouais. On vous expliquera.
Donc, vous avez mené à bien ce travail.
C'est fait maintenant, une grosse fatigue, une saine fatigue.
Oui. Il y a eu un autre travail qui n'est pas simple en ce qui concerne Gaston, c'est l'ordre chronologique des dessins et des planches. Et chez Dupuis, on a une secrétaire d'édition qui s'arrache les cheveux parce qu'elle a l'impression que ça n'était jamais fini et qu'on retrouvait toujours une planche, un gag, quelque chose d'inédit. Et donc, dans la carrière d'André Franquin, il a été extrêmement généreux avec ce personnage.
Oui.
C'est vrai qu'il n'y a pas que les planches, il y a les petites illustrations, il y a les petits bouche-trous, il y a des gags. Il y a des gags où là où ça se complique vraiment, c'est quand Franquin a déposé des gags, par exemple, avec la tortue, mais qui n'ont pas été publiés au même moment dans le journal. Donc, parfois, quelques années plus tard, on voit un gag avec la tortue au pinceau, alors que les planches ne sont pas de la même technique. On a essayé le plus honnêtement et le plus consciencieusement possible de mettre tout ça dans l'ordre pour que, à l'avenir, on puisse lire un album de Gaston et comprendre directement qu'il s'agit d'une cadence hebdomadaire. C'est comme si on avait voulu brouiller les pistes avant, et puis de toute façon, il y avait le gros problème du tome 18 et 19 actuels, qui sont une sorte de fourre-tout de tous les Gastons de toutes des époques différentes. Oui. Si le petit lecteur d'aujourd'hui ouvre un album de Gaston et comprend que chaque planche, c'était chaque semaine, et comprend qu'il y a une évolution subtile, ben, alors on a réussi notre coup.
Oui.
Mais peut-être qu'on l'a pas réussi, on verra bien.
Il manquera l'attente d'une semaine à l'autre. En fait.
Voilà, on peut peut-être en début d'album dire, recommander aux gens de lire une page par semaine. Ils en ont pour 20 ans.
Et donc ça donne lieu donc à une publication, à une actualité éditoriale.
Vas-y, Sergio, vas-y.
Il y aura dans quelques semaines et au mois de juin un grand colis. Un gros colis justement pour l'anniversaire de Gaston. En fait, c'est Gaston lui-même qui a préparé le colis et dedans, il y a 22 tomes qui ont été remasterisés, hein, puisque c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui, comme dans le cinéma. Donc remasterisé, ça veut dire mis dans l'ordre chronologique, recolorié et comme Isabelle et Fred l'ont expliqué, en repartant le plus souvent possible des originaux.
Ouais.
Et donc en essayant d'être... Non pas le plus exhaustif, parce que là, c'est vraiment impossible, mais en donnant époque par époque, en donnant l'essence de Gaston et de son rapport avec le journal de Spirou.
Alors évidemment, parfois, on n'a pas l'original. Parfois, on n'a ni l'original ni un film. Donc, il faut partir à ce moment-là de la publication de l'époque et essayer de... Heureusement, la technologie d'aujourd'hui permet d'isoler le trait et d'essayer d'avoir un résultat regardable. Ce qui n'était pas le cas fin des années 80, à un moment où certains dessins ont été décalqués. Donc, ce n'était pas vraiment... Dans les albums actuels, il y a des illustrations du début qui ne sont en fait pas vraiment du Franquin.
Alors, heureusement, il y en a assez peu, mais il y a quelques planches qui sont chez les collectionneurs aussi.
Oui. D'ailleurs, s'il y a des collectionneurs dans la salle et qu'ils ont des planches, on est preneur.
Enfin, on n'est pas preneur des planches.
Non,
mais,
non.
En tout cas, d'un scan qui soit de haute qualité.
Et on vous les rend.
Enfin, peut-être.
Je vais vite une copie.
Donc ça, c'est pour le mois de juin prochain.
Oui.
D'autres cadeaux que nous prépare Gaston.
Attends, il y a celui-là, hein, on peut le montrer.
Tu peux le montrer.
Un plan produit.
Oui, c'est pour l'anniversaire de Gaston.
Je n'osais pas le voler dans le sac.
Comme ça, vous le voyez comme ça?
Alors, ça a été...
C'est pour le tout public, pour le grand public.
Voilà, pour le grand public. Ça a été très compliqué, mais c'est expliqué dans une préface, c'est que nous avons cherché les 64 préférés de tous les temps par l'ensemble des lecteurs de Gaston Lagaffe. Et on a mis une batterie d'ordinateurs là-dessus. En fait, non, pas du tout. On a juste choisi 60 gags qui nous semblaient les meilleurs.
Ouais. Ce qui est compliqué parce qu'il y a des gags hors d'une demi-planche, donc ça ne fait pas 60 pages.
Ah non, ça fait 60 gags, mais pas 60 pages. Voilà. Non, non, et puis.
C'est un cadeau idéal pour les gens qui ne veulent pas le colis complet, mais le colis complet sera beaucoup mieux.
C'est mieux.
Il est plus cher.
Un petit peu plus cher.
Mais pas si cher que ça.
Ah. Mais non.
Mais non, parce
qu'on a un monde complet.
Parce qu'il y a 22 albums, et en fait, le colis, c'est le prix de 22 albums.
Oui, voilà. Parce qu'il y a 19 albums pour le moment dans les librairies, et on est arrivé à 22.
Oui.
En rajoutant par-ci, par-là, quelques petites choses qui étaient inédites. Enfin, inédites. Qui était dans le journal.
Et comme c'est Gaston qui a préparé le colis...
Il y a des petites surprises.
Il y a des surprises.
Ne vend pas la mèche.
Oui. Non, 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 non,
jamais.
Notamment, non.
Non, 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 non.
Et un... Non.
De toute façon, c'est déjà sur Internet.
Oui, c'est vrai. Donc voilà. Et puis, il y a une chose aussi. Fred parlait tout à l'heure en direct de la rédaction, qui était cette rubrique... écrite par Yvan Delporte, on va dire la rubrique ou en tout cas la chronique des aventures de la rédaction telle que fantasmée par André Franquin et par Gaston Lagaffe et illustrée par Franquin avec justement des techniques qui ne sont pas les techniques d'une planche
habituelle. Ce sont souvent des couleurs directes à l'écoline, donc ce sont des teintes très très fraîches.
Ouais.
Et évidemment, quand c'est paru dans le journal, c'était paru avec ce mauvais papier et ces mauvaises couleurs. Donc en fait, c'est presque, on peut dire que c'est des dessins que les gens n'ont jamais vus.
Ouais, à l'époque, c'est ce qu'on dit, c'est que Dupuis imprimait à la patatogravure. Tellement c'était des grands dessins comme ça, qui étaient comme ça, avec beaucoup de solvant dedans, dont toutes les couleurs qui se mélangent et on ne voit rien.
On ne voyait plus rien. Ouais. Mais là, dessins sont magnifiques, évidemment, à observer en grand, et étaient une base de travail pour la colorisation des planches. Et ce qui est vraiment intéressant, j'ai déjà raconté peut-être la fois dernière, mais ce n'est pas grave, c'est que quand Franquin met lui-même en couleur un dessin, il sait exactement où est-ce qu'il va arrêter sa couleur. Donc, il n'est pas obligé de remplir tout le dessin avec les traits. Les traits, finalement, par moment, sont une indication pour que le coloriste ne dépasse pas. Et donc, les dessins en couleur directe sont encore plus bouillonnants, pour réutiliser le terme favori.
Donc, en fait, tout ça pour vous dire qu'on essaye de retrouver des éditions définitives de Gaston Lagaffe, mais qui seront définitives, à mon avis, pour 5 ans. Dans 5 ans, ce sera obsolète. Il faudra tout refaire et tout revendre au public.
Ouais. De toute façon, la technologie va évoluer. Ce seront des hologrammes. On rentrera dans les cases, etc.
Oh, ce serait bien. Ça.
Enfin, c'est pour bientôt. T'as vu Mélenchon, hein.
Et Sergio, est-ce que ce souci patrimonial dont témoigne Dupuis a été aussi, s'est porté aussi sur d'autres personnages?
Le premier
du journal de Spirou.
Le premier personnage des éditions Dupuis, c'est Spirou. Puisque la bande dessinée a commencé chez Dupuis en 1938 avec le journal Spirou et puis avec toutes les bandes dessinées qui sont nées dans le journal et donc le personnage. Et oui, c'est important parce que des maisons d'édition, on va dire franco-belges, Dargo, Lombard, on va dire les historiques, Dupuis est la plus ancienne. Et donc, il nous semblait nécessaire, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, de bien connaître notre passé. Enfin, c'est bien dit. Hein.
Pas mal, c'est vrai. Répété.
Donc, oui, on a fait un travail patrimonial qui est de retrouver c'était qui Jigé, c'était qui Franquin, c'est comment Maurice a commencé. Et donc on a commencé une série de... Non seulement d'intégrales, c'est-à-dire qu'on met dans un gros album trois albums normaux, mais aussi un appareil critique, un dossier qui permette d'éclairer les circonstances de la création.
C'est le moment de saluer Christelle et Bertrand.
Puis on les salue.
Vierno, qui ne sont pas là, mais qui regarderont sûrement sur Internet. Là, c'est comme ça qu'on va être sur Internet. Là.
Qui font un grand travail de recherche... d'archives et de papiers, de contrats, et qui ont d'ailleurs dont le travail peut être lu dans l'intégrale Modeste et Pompon parue au Lombard. Ils ont fait un grand travail de recherche sur les ce qui avait poussé mon père à passer du côté du journal Tintin, et il y a des contrats qui sont retrouvés, et l'histoire se réécrit avec des documents
des
bruts,
éléments.
Avec des éléments bruts qu'on peut consulter, et c'est vraiment magnifique.
Ça me fait penser à ce qu'on peut voir à l'expo, c'est ce document de mai 1968, je crois que c'est mai, non ?
9 mai 1968.
Voilà. Où on recommande à ton père d'éviter de continuer à faire des gags sur avec les policiers, parce que ça suffit maintenant, ils en ont reçu assez comme ça. Je crois qu'à l'époque, il y avait 6 ou 7 planches de Lontarin, pas tellement dans l'album. Il s'est bien rattrapé après, malgré les recommandations de Dupuis France.
Isabelle, comment vous voyez justement ce travail de recolorisation et le souci patrimonial? Vous parliez tout à l'heure en aparté des marchands du temple. Comment on...
Vas-y.
C'est là où je me bouche les oreilles.
On vit cette tension, ce souci justement du respect de l'œuvre, et puis la nécessité, ou en tout cas le souci de faire évoluer le personnage.
C'est pas très facile, parce qu'en fait, moi je suis la tenante du droit moral, et le droit moral, c'est un droit qui permet à l'auteur et aux ayants droit descendants de l'auteur d'avoir de pouvoir mettre un veto, d'émettre des critiques quand on pense que l'emploi qu'on fait du personnage va au-delà de ce que l'auteur voulait, soit du point de vue éthique, soit du point de vue graphique. C'est-à-dire qu'en fait, le droit moral s'applique dès qu'il y a une modification de l'œuvre, ce qui est tout de même assez vaste. Mais le droit moral n'est pas tout puissant non plus, puisqu'il doit les remarques qu'il fait, le veto qu'il peut donner, ça doit avoir un fondement, une logique, ça doit se tenir, c'est pas quelque chose qu'on peut lancer comme ça en l'air. Et donc la colorisation, une recherche de la remise en valeur de l'œuvre, évidemment, va tout à fait dans la droite ligne de ce que doit faire le droit moral. Et le problème du droit moral, c'est quand il y a des licences qui sont achetées par des gens qui vont faire soit des agendas, soit des pyjamas, des cartes, etc. Mais il faut garder l'esprit aussi. Il ne faut pas que le personnage perte de sa substance et s'édulcore au fur et à mesure des utilisations commerciales. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il faut faire comprendre aux gens qui ont les licences qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, qu'ils ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi avec le physique de Gaston. Là, je pense aux statuettes. Il y a beaucoup de statuettes de Gaston qui ont été faites. Et on se rend compte, quand on les a, à partir d'un certain moment, à la SA Franquin, le bureau donc de la SA Franquin, on les avait tous en vitrine. Et les regarder, ça donnait vraiment le tournis, parce qu'aucune des statuettes n'était Gaston. Et donc, son physique se modifie, et ce n'est finalement plus Gaston. Et la perception que les gens ont de Gaston, ce n'est plus Gaston. Donc, il faut essayer de garder aux choses une certaine qualité, une qualité graphique, et aussi il faut que Gaston soit toujours le personnage tel qu'il était le plus fidèlement possible dans la bande dessinée. C'est-à-dire que souvent il y a des mugs et on voit des espèces de petits bouts de phrases très... très, très commercial, du style vivement la retraite. Mais Gaston, c'est pas un personnage qui pense à la retraite, c'est pas un personnage qui est paresseux. Il faut que les gens puissent replonger dans les albums, essayer de penser ce qu'était Gaston. Voilà, en gros. Et le problème, c'est les adaptations aussi. Parce que les adaptations pour le droit moral comme les dessins animés et en tout cas les films, les adaptations, c'est après, quand le film est fini. Parce qu'on peut voir autant de rush qu'on veut, eh bien, le montage, c'est le montage, et ça peut donner une œuvre tout à fait différente. Donc c'est un gros problème, le problème de rester fidèle au personnage, à la fois d'une manière éthique et à la graphie de mon père.
Merci.
D'autant plus que sur des personnages... comme Tintin ou Gaston, et sans les comparer, en fait, les gens ont l'impression que ça leur appartient. Donc, qu'ils peuvent en faire un peu, le mettre à toutes les sauces. Mais en fait, il faut garder, effectivement, comme Isabelle l'a dit, l'esprit. Et c'est ça le plus compliqué. Parce que tout le monde veut... Je pense notamment aux gens qui font des pyjamas, ils sont tout excités. Évidemment, ils aiment Gaston, ils vont en faire des choses. Et puis on les voit.
Excuse-moi, je ne pense pas qu'ils aiment vraiment Gaston. Ils aiment vraiment bien l'utilisation commerciale qu'ils vont pouvoir faire de Gaston et les royalties qu'ils vont pouvoir en tirer. Parce que parfois, on voit des trucs, mais c'est vraiment... On se prend la tête à deux mains. On se dit, mais est-ce qu'ils ont véritablement lu la bande dessinée ? Parce qu'il y a parfois des choses qu'on voit, je vais être vulgaire, c'est du foutage de gueule.
Mais parfois, je vois des graphistes qui s'en emparent. Je me dis qu'eux, ils n'ont pas ça, mais c'est comme s'ils ne comprenaient pas. Ils s'imaginent que tel graphisme et le personnage, telle tête de Gaston, ça va ensemble. Et c'est comme s'ils n'avaient pas cette, je ne vais pas dire cette éducation, mais en tout cas cet œil qui est l'œil difficile à reproduire, mais qui est l'œil d'André Franquin.
Il y a beaucoup de dégâts qui ont été faits il y a quelques années aussi. Il y a des cartes postales qui sont sorties avec des lettrages douteux et des choses qui sont pas... On essaye de rattraper ça.
Et ce qui est formidable, c'est quand André Franquin faisait lui-même ce qu'on appelle les turnovers, c'est-à-dire le même personnage de face, de profil, de derrière, pour montrer la statuette Franquin telle qu'il l'imagine. Et c'est quand même c'est génial. Parce que là, c'était le créateur lui-même qui donnait son interprétation de ce que devait être une statue de Gaston Lagaffe.
Je pense qu'il y a une série de photos où on voit ton père avec les prototypes de latex.
Oui.
Donc ça, c'est début des années 60.
Oui.
Et les figurines en latex, Franquin mettait beaucoup d'énergie à ce que ce soit réussi.
Oui.
Le Spirou en vinyle de 1960.
Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette époque-là où apparaissent les figurines Gaston en latex, parce que André Franquin les a aussi beaucoup mises en scène dans la série Gaston.
Oui, c'est d'ailleurs...
C'est intéressant.
C'est des gars très réussis d'ailleurs, c'est vraiment formidable.
Le Gaston latex géant.
Le Gaston latex, le Gaston publicitaire de lui-même.
Oui.
Justement, il y a un rapport de Gaston à son image et un jeu entre Gaston et son double qui est très intéressant et qui nourrit aussi les gags de la série. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Non. Oui. En tout cas, moi, je m'amuse bien. Parfois, il y a des dessins. On retrouve des dessins où Franquin représente le Gaston en latex et on voit que c'est le Gaston en latex parce que le bord des pantalons n'est pas fait de la même manière. Donc, c'est vraiment du latex.
Oui. Parce qu'en fait, il faut tout de même encore le souligner, il y avait une extraordinaire cohérence dans les dessins, dans chaque case de Gaston, il y a une extraordinaire cohérence et un extraordinaire souci du détail.
Est-ce qu'il a été, alors justement, on parle beaucoup de ce Gaston miroir? Est-ce qu'à certains moments, André Franquin a pensé à la manière dont son personnage pouvait évoluer ou en tout cas la manière dont il pouvait le transmettre à d'autres dessinateurs? Est-ce que c'est une question qui s'est posée ou pas?
Pour Gaston, c'est une question qui ne s'est pas posée. Mm-hmm. D'ailleurs, au cours d'entretien avec Numa Sadoul en 1996, je crois, 1996, il dit clairement qu'il ne veut pas que le personnage lui survive. Donc non, il n'en a jamais été question. Par contre, il a été amené à vendre les droits patrimoniaux du marsupilami à un homme d'affaires monégasque. Et il s'est prêté de lui-même à la passation de pouvoir, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est un dessinateur liégeois qui s'appelle Batem qui a dessiné le Marsupilami. Et au début, il donne les indications, il aide à la conception du scénario, et puis il laisse les choses évoluer.
Voilà. Il faut des silences un peu de temps en temps, ça fait du bien. Le silence qui suit est encore du Franquin.
Le silence qui suit, c'est la semaine suivante, en fait.
Il faut attendre une semaine.
Voilà. Alors, on peut peut-être aussi déjà...
un bracelet.
...se tourner vers le public qui doit avoir... qui a des questions. Qui meurt d'impatience de poser des questions.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire où votre père trouvait son inspiration pour les machines de Gaston, ou enfin quel livre ou enfin lui ont donné de l'inspiration?
Il avait beaucoup d'imagination. Il avait aussi une imagination qui lui faisait voir dans certains objets usuels d'autres utilisations. Et il regardait beaucoup il se documentait beaucoup en regardant curieusement le catalogue Manu France et d'autres catalogues anciens avec des machines. Voilà.
Est-ce qu'il était,
en feuilletant
est-ce qu'il était bricoleur?
Il n'était absolument pas bricoleur. Et la seule fois où il s'est mêlé de faire du bricolage, il a utilisé un mauvais vernis et il est tombé malade parce que il aurait dû se protéger et il ne l'a pas fait.
Tu peux raconter l'épisode de la tondeuse aussi.
Oui, oui.
Pour montrer qu'il était bricoleur.
Oui, et il n'était même pas capable de tondre une pelouse sans qu'il arrive à un gros problème. Le premier étant qu'il a fait des grands pas en passant une tondeuse à moteur et il a passé son pied sous la tondeuse. Et puis bon, il s'est résigné à utiliser une tondeuse électrique plus petite. Ça s'accordait mieux avec la manière dont il marchait. Et quand il a utilisé une tondeuse électrique à fil, il a coupé le fil chaque fois qu'il l'a utilisé. Donc ça aussi, il a abandonné.
En tout cas, dans les inventions de Gaston, ou dans toutes les inventions, il y a une plausibilité, c'est comme ça qu'on dit.
Oui.
Je crois qu'il n'aimait pas, il n'aurait pas aimé inventer un objet qui ne soit pas réalisable.
C'est vrai.
Et d'ailleurs, c'est pareil, ça me fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir avec ses inventions, mais qui est la peau à sloop tout. Le seul gag un petit peu absurde et qui, d'après Franquin, était une erreur de parcours. Il aimait bien que les choses soient réelles. Je crois qu'il était particulièrement angoissé et c'est pour ça que le moindre petit objet doit exister.
Et on revient à la cohérence.
Oui.
Vous pourriez expliquer le changement étonnant de psychologie du personnage de Fantasio qui est donc le chef de Gaston Lagaffe, alors que dans Spirou et Fantasio, c'est lui le gaffeur.
Mais vous venez de l'expliquer, en fait.
Mais c'est quand même étonnant, ça. C'est ça m'a toujours surpris.
Oui, c'est très surprenant. On avait l'habitude de voir en Fantasio le gaffeur de service.
Le fantaisiste.
Fantaisiste, le nom le dit. Et puis tout à coup, Gaston arrive et Fantasio se plaint d'ailleurs. Il souffre un peu de l'arrivée de Gaston parce qu'il devient trop sérieux et que sa vie est moins rigolote parce qu'il y a quelqu'un qui lui dame le pion. Recommence.
Excusez-moi, est-ce qu'on n'a pas exactement le même phénomène dans Modeste et Pompon avec l'arrivée du personnage Félix? Parce qu'au début, Modeste est très fantaisiste. Et puis tout d'un coup, il y a Félix qui arrive, qui est une espèce de pré-Gaston, peut-être un peu. Enfin, puis alors, après, Modeste devient vraiment un peu celui qui doit lutter contre l'indiscipline de Félix. Enfin, moi, j'ai trouvé un parallèle.
C'est Félix l'envahit, en fait, aussi.
Mais il est aussi un peu gaffeur. Une fois qu'il y a Félix, Modeste, il ne peut plus être aussi inventer des trucs comme au début de la série, il me semble. Hein.
C'est très curieux, c'est comme... un jeu de rôle du clown blanc et de l'Auguste. Il y a sûrement des tas de bouquins à faire là-dessus. Mais On peut imaginer, en tout cas pour Fantasio, qu'il avait déjà été créé. Franquin l'a repris, ce n'était pas vraiment son bébé, donc il a probablement eu moins de scrupules à le transformer en clown blanc.
Et puis je crois que ce sont des évolutions qui se produisent presque à l'insu du dessinateur, qui doit faire sa planche hebdomadaire de gags de Gaston d'une part et continuer Spirou en même temps d'autre part. Ouais. Donc je crois que c'est pas quelque chose qu'il a prémédité, voilà.
Et puis dans son imaginaire, la rédaction Spirou, forcément, puisque Fantasio est secrétaire de rédaction depuis longtemps, c'est normal qu'il le mette comme secrétaire de rédaction.
Il est journaliste.
Il est journaliste, au moustique au départ.
C'est vrai que là, se retrouver à la rédaction de Spirou, c'est un peu bizarre.
Sauf que la rédaction du moustique était à peu près au même endroit.
Oui, mais là, c'est la rédaction de Spirou.
Oui, d'accord. OK.
C'est vrai.
Et le gagnant est
En effet, Franquin était un extraordinaire coloriste, et notamment, Frédéric le sait bien, en couleur directe, mais c'était surtout, avant tout, un éblouissant dessinateur qui fait qu'il mériterait plus encore que le Centre Pompidou, il mériterait le Louvre, et tôt ou tard, il y sera, si les choses sont cohérentes, en effet. On parle beaucoup des anecdotes de Gaston, des personnages, etc. Mais ce qui fait vraiment la vie de Franquin, c'est la vie de ses personnages, la vie de n'importe quel élément du décor qui fait qu'il reste éternel et qu'il est vivant. C'est un scoop. Comme tout artiste, par la vie qu'il transmet par ses dessins, il restera toujours vivant.
Oui. C'est très touchant. Puisque ça fait 7 ans maintenant que chaque case de Gaston est agrandie sur mon écran d'ordinateur. Et il y a quelque chose de vraiment incroyable. On dirait que les personnages sont en arrêt sur image tant qu'on les regarde et que dès qu'on va quitter du regard, ils vont vivre, ils vont bouger.
Moi, j'ai l'impression du contraire. Les éditions Dupuis ont illustré les pages de garde avec des chats dans le numéro spécial Gaston avec son chat. Et chacun de ces chats est plus animé, plus hystérique que le plus forcené des dessins animés de Tex Avery. Parce que justement, le regard se pose dessus. Dès que le regard se pose dessus, ça s'anime.
Ouais.
Et on sait peut-être que ça s'anime encore plus d'ailleurs quand on a le dos tourné. Mais c'est déjà formidable quand on le regarde. Et n'importe quel élément du décor, objets inanimés, avez-vous donc une âme, devient vivant. Lui qui est dessinateur, même avec le bras qui représente le dessinateur dans la vraie fausse rédaction de Spirou, le pinceau séché avec l'encre de Chine, la plume un peu cassée, tout ça devient vivant.
Tout y est, oui.
Sans d'ailleurs, parler des voitures et de tout, quoi.
C'est d'ailleurs marrant parce qu'on me demande régulièrement. Enfin, on nous demande de faire des expertises. Donc, parfois, il y a des dessins qu'il faut.
On te demande.
Ouais, enfin, on nous demande. On regarde des dessins et on se dit est-ce que c'est un vrai ou pas. Et très clairement,
neuf fois sur dix,
c'est l'intensité, c'est la vitalité des personnages qui fait que.
Le regard,
on voit que c'est probablement un très bon dessinateur qui a scrupuleusement décalqué en toute honnêteté un dessin de Franquin, mais il n'y a pas pas la vie.
Mais d'ailleurs, on voit ça dans certaines planches, comme les publicités pour Pied de Bœuf.
Mais voilà.
En fait, les publicités pour Pied de Bœuf, vraisemblablement, les planches n'ont pas été retrouvées. Et l'homme d'affaires monégasque voulait mettre dans les versions originales qu'il produisait à l'époque, il voulait mettre les publicités Pied de Bœuf. Mais je pense que d'ailleurs, l'ouvrage s'est fait avant. Puisque dans les Rombaldi.
Les Rombaldi, ce sont des reproductions.
Des reproductions. Et si vous regardez bien les publicités pour la boisson Orange Pied Bœuf dans les versions originales, vous verrez qu'il y a vraiment des choses qui ont été refaites. Et un œil exercé finit par le comprendre parce qu'il y a ce manque de vie, cette espèce de. Ce trait qui devient ce trait qui est raide.
Et c'est pareil pour les 15 premiers dessins. Donc les dessins de début 57 n'ont pas été retrouvés. On n'a pas tous les originaux. Et à un moment, les éditions Dupuy ont demandé à quelqu'un de décalquer les publications. Et il y a une énorme différence. C'est pour ça que dans le Colis Gaston qui sort bientôt, on a choisi de plutôt reproduire les publications en les restaurant un tout petit peu, plutôt que les dessins décalqués.
Oui, ouais. Oui, c'est vrai.
Mais alors, quel âge il a, Gaston ?
Par rapport à l'intensité, je me suis posé la question, et je ne suis pas le seul, mais comme il a commencé sa carrière dans un studio de dessin animé, à faire du dessin animé très, très disneyen, il y a certaines planches où on a l'impression que dans une case, il a essayé de concentrer toute la vie et tout le mouvement possible sur une, presque toute une séquence.
Mais c'était quelqu'un qui avait un sens de l'observation intense et qui regardait les choses en profondeur. Et donc, ce qui restitue, c'est aussi grâce à cette observation et cette empathie aussi. On voit un chat marcher, il y a vraiment une justesse dans la démarche. Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est encore une séquence issue de Spirou et Fantasio, c'est dans QRN sur Bretzelburg, c'est Fantasio qui met sa robe de chambre et essayez de visualiser la séquence et puis mettez une robe de chambre. Et c'est vraiment le gestier, quoi. On a vraiment l'impression d'être le personnage qui met la robe de chambre, tellement c'est fait avec justesse. Et je crois qu'il avait ce souci du geste juste. Et c'était un souci qui lui était venu aussi du temps passé avec Joseph Gillin, Maurice et Willy, et ils avaient une espèce de méthode de travail qui était la discussion sur leur dessin mutuel, des remarques qui se faisaient, la recherche de la justesse du geste. Par exemple, à un certain moment, il y a un des soit Maurice, soit Franquin, qui doit dessiner une séance où les personnages boxent. Et donc, ils se sont mis tous les quatre, avec l'aide d'un garçon livreur aussi, qui avait fait de la boxe dans sa jeunesse, et qui leur a montré des gestes, comment on faisait les gestes techniques. Et donc, ils se sont mutuellement exercés à faire les gestes et à se croquer mutuellement faisant les gestes. Il faut aussi ne pas oublier que à l'époque, par exemple, l'époque dont je parle, c'est 1946, il n'y avait pas de télévision, l'image était fixe, donc on devait pallier à ça, c'était faire du dessin d'après nature et croquer le geste dans son intensité.
Cela dit, ton père était un formidable comédien aussi. Il aurait pu être comédien.
C'est vrai. Parfois, il prenait. On avait des volumes de pièces de Racine à la maison, et parfois, il prenait un volume de Racine, il l'ouvrait et il commençait à déclamer du Racine, mais avec beaucoup de talent. Et Frédéric et moi, on peut témoigner aussi qu'il arrivait à pleurer sur commande. Ouais. Et raconte, Frédéric.
Ben, un jour, il m'a fait le coup. J'étais donc post-ado. Il s'est approché de moi. Il m'a dit, tu sais, je peux pleurer comme ça. Il a pensé à quelque chose de très triste. Et quelques secondes après, il y avait des chaudes larmes qui coulaient de ses yeux. Mais c'était pas... Comment dirais-je ? C'est pas un cabotinage.
Non.
Je crois qu'il avait vraiment un accès direct par son hypersensibilité, un accès direct à des choses très drôle ou à des choses très tristes. Cela dit, moi, je me rappelle d'un mime en cascade chez Yvan Delporte, après un Waterzooi avec Gottlieb. Et je ne sais pas pourquoi, ils avaient tous décidé de jouer mime en cascade. Et là, j'ai vu Franquin faire un fakir. Et c'était hallucinant. Il jouait parfaitement bien. Avec aussi une minutie et un souci du geste juste et du détail. Mais c'est pas un scoop, parce que quand on voit les planches, ça saute aux yeux.
Mais quand il dessinait aussi, il prenait l'expression du personnage qu'il était en train de dessiner. C'était assez fascinant à voir.
C'est vrai que dans Gaston, les personnages jouent très très bien.
Tout le monde joue bien.
Tout le monde joue bien. Et c'est
dans
vraiment
Spirou aussi. Enfin, c'est...
Ouais. Alors, il raconte que durant ses jeunes années, qu'il a passé dans de tristes établissements religieux. À peu près le seul bon souvenir qu'il en a, c'est quand ils ont joué une pièce de théâtre et il a eu le rôle du roi dans Le Chaboté. Et il a vraiment soigné son interprétation au maximum. Et alors, ça a été une émotion. Il le raconte vraiment comme une émotion de jouer ce rôle. Et je pense qu'il l'a joué avec tellement de soucis, avec tellement de cœur, qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont fait des compliments après en disant « Ah, c'est vraiment un rôle bien, bien joué, bien interprété. »
Tu parlais tout à l'heure de l'intensité qu'il mettait. Et juste avant d'arriver ici, tu parlais d'une case de Spirou et Fantasio des voleurs du Marsupilami. En disant, mais si on regarde cette grande case, il y a toutes des petites histoires. Et puis Frédéric renchérissait en disant, mais même en recoloriant Gaston, on voit qu'à l'arrière-plan, ce n'est pas juste des silhouettes qu'il a dessinées, mais il y a parfois une histoire de tous les personnages qui sont à l'arrière-plan.
Une grande générosité.
Oui. En fait, c'est drôle parce que la première chose qu'on a recoloriée, c'est Bravo les Brothers. Et une des premières cases, c'est Spirou et Fantasio qui sont dans la rue et qui rentrent dans la rédaction. Leur mouvement est assez dynamique. Et à l'arrière-plan, il y a une scène de rue à peine ébauchée avec un arbre et puis deux personnages à l'arrière-plan. Et pour refaire les couleurs, on est forcé d'agrandir la case au maximum sur l'écran d'ordinateur. Et qu'est-ce qu'on a découvert dans ces deux petits personnages à l'arrière-plan ? Une grosse dame très est dessinée avec cette pose là, un espèce de double menton, une bouche très 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 amère comme ça, et elle tient par le bras un petit mari tout étiolé, et c'est vraiment comique à voir parce que même les personnages à l'arrière-plan ont une histoire, et cette histoire, le lecteur peut la reconstituer grâce à l'efficacité du dessin.
Mademoiselle. Question. Non.
Monsieur.
Mais quand vous dites que Franquin ne voyait pas l'utilité de dessiner des silhouettes, après, dans Les Idées Noires, il dessine tout le temps des silhouettes. Alors pourquoi, comment
ça arrive ? Absolument. Voilà, qui est tout à fait finement observé. C'est vrai. Je pense que tant qu'on était dans Gaston Lagaffe, il ne voyait pas l'intérêt de colorier les personnages avec une seule couleur. Maurice aurait dit que c'est plus efficace, qu'on voit plus vite ce qui se passe. Mais en revanche, c'est vrai qu'une fois qu'il a fait Les Idées Noires, là, il est à fond dans les silhouettes, mais en s'attachant toujours à ce que le geste soit précis aussi. C'est pas la même chose que si tu fais le contour du trait que tu remplis avec un pinceau noir. Et à chaque fois, c'est un exercice encore différent, parce que je pense que là, au moment où il devait mimer ou imaginer la position des personnages pour que ce soit lisible avec simplement un aplat de noir, c'est encore un autre boulot.
Mais c'est un autre sujet aussi.
Oui.
Et donc, la manière de dessiner colle au sujet. C'est des sujets... Alors, c'est bien de parler des idées noires, parce qu'elles ne sont pas tellement connues. Or, c'est vraiment quelque chose de graphiquement très intéressant. Et c'est une autre piste aussi. C'est tout à fait autre chose que Gaston. Mais les idées noires, en fait, elles ne naissent pas d'une dépression de Franquin, comme on l'a toujours dit, mais elles naissent de l'empathie que mon père avait par rapport aux choses qu'il voyait à la télévision ou qu'il lisait dans le journal. Et je crois, moi je dis toujours que le début des idées noires, c'est une pollution au mercure dans un village de pêcheurs japonais qui s'appelle Minamata. Et c'est un reportage qui avait été fait par le grand photographe américain Eugene Smith. Et ce reportage avait été paru dans Life magazine. Et mon père avait été extrêmement choqué du sort de ces gens, parce que la pollution au mercure avait fait que ces gens avaient enfanté des enfants difformes. Et la photo la plus célèbre de Eugene Smith, c'est cette mère qui lave cet enfant qui n'a plus ni bras ni jambes et qui est vraisemblablement attardé mental. Et mon père, qui avait une profonde empathie, c'est quelque chose qu'on ne dira jamais assez, mon père, qui avait une profonde empathie, avait été fort touché par ça, mais au plus profond de lui-même. Et les idées noires sont issues de cette empathie par rapport à des faits d'actualité, par rapport à l'absurdité du monde, par rapport aux ventes d'armes et à d'autres choses que les hommes organisent et qui sont tout à fait irresponsables. Et ça, je pense que l'actualité, à partir d'un certain moment, lui a fait vraiment peur, et que les idées noires, c'était une manière d'exprimer cette peur tout en arrivant un peu à en rire, mais en faisant en sorte que les gens prennent conscience aussi des choses.
Est-ce qu'il n'y a pas une corrélation ou une ligne de fuite que l'on peut voir entre justement les idées noires et un Gaston qui, au fur et à mesure, devient aussi de plus en plus noir? C'est-à-dire, dans la série Gaston, on voit, me semble-t-il, on voit venir des planches, justement, où ce procédé de silhouette apparaît, et où, alors on a vu et on a essayé dans l'exposition de montrer la corrélation qui peut exister entre les thématiques que porte la série Gaston et des thématiques qui sont ensuite portées d'une autre manière, en fait, un peu en négatif, dans les idées noires. Mais est-ce que dans l'évolution du personnage de Gaston, on ne peut pas voir un personnage qui peu à peu aussi s'assombrit? Est-ce que vous le ressentez?
Tu fais allusion sans doute à la planche d'Amnesty International.
Pas seulement,
qui est vraiment
en fait, aussi,
une transposition de Gaston et des idées noires.
Aussi.
Cela dit,
ça en serait le...
Ce qu'on peut essayer vaguement d'expliquer, c'est que les idées noires sont nées dans le trombone au moment où Franquin et Delporte étaient un petit peu... désapprouvaient un peu l'état du journal de Spirou. Et donc, à partir de là, il n'y a plus vraiment eu Gaston chaque semaine dans Spirou. La publication de Gaston s'est éparpillée. Ouais. Et donc, je crois que Franquin était toujours très attaché à son personnage, mais il n'arrivait plus à la même cadence et il s'excitait beaucoup à faire les idées noires après le trombone pour Flûte glaciale. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques planches de Gaston qui sont... au niveau de la thématique proche des angoisses qu'il y a dans les idées noires, mais petit à petit, on pourrait imaginer qu'au moment où le personnage a été entre guillemets confié à l'homme d'affaires monégasque, toute l'énergie de Franquin était dans les idées noires, et puis ensuite dans les tifous, pour lesquels il a passé beaucoup de temps aussi.
Les tifous,
on peut raconter un peu les tifous.
C'est un dessin animé qui était produit par des Suisses, et pour lequel il a fait un énorme travail de préparation. Et il s'est donné corps et âme, il passait des journées entières à préciser les personnages, à personnaliser la texture de leurs cheveux jusqu'au nombre de poils qui leur sortaient des oreilles pratiquement. Et bon, c'est quelque chose qui a été mal animé, qui a été mal produit, et finalement ça a été un désastre complet. C'est difficile pour un créateur de vivre des expériences pareilles et de voir les couleurs qui ne sont pas rendues de la manière dont on voudrait, des dessins qui ne sont pas imprimés comme ils le mériteraient, et puis des dessins animés qui font des espèces de flops alors qu'on s'est investi énormément dedans.
Alors, il y a eu d'autres aventures graphiques à cette période ?
Il y a les doodles, il y a toutes sortes de... Oui. Je crois que, en tout cas, si on prend la carrière graphique de Maurice, par exemple, qui est remarquable, mais qui, à un moment, s'arrête. Il y a un moment où Maurice sait comment il va dessiner un Lucky Luke, et c'est à peu près le même pendant plusieurs albums, alors que chez Franquin, on sent qu'il y a tout le temps le besoin d'évoluer, de changer, de jeter les instruments qu'il utilise et d'en utiliser d'autres. Peut-être, c'est une hypothèse, mais peut-être que Franquin avait du mal parce que, en général, dans les années 50-60, si on voulait rentrer dans Spirou, il fallait faire du Franquin. Charles Dupuis disait dessinez comme Franquin et on vous publie tout de suite. Et Franquin était très malheureux de ça, je pense. Ouais, toi, tu peux peut-être témoigner, mais ça ne le rendait pas très heureux qu'on demande à tous les jeunes dessinateurs de faire du Franquin pour rentrer dans Spirou. Et donc, ça a peut-être été aussi le déclencheur de. Chez lui, cette envie, de toute façon, c'était un passionné du dessin, donc il n'y aurait pas eu ça, il y aurait eu autre chose, mais l'envie d'expérimenter du fusain, quand on voit les Gaston faits au fusain juste pour de la pub, pour les petits albums à l'italienne, c'est époustouflant aussi. Donc chaque fois qu'il utilisait une nouvelle technique, c'était les dernières expériences après les Tifous, c'est les doodles qu'on retrouve aussi sur des petits albums. Oui. Donc ces petits dessins qu'on fait en général quand on est au téléphone et qu'on ne réfléchit pas. Oui. Donc des petits trucs comme ça. Et lui, il en a fait des choses époustouflantes.
Il était plutôt, à la fin de sa vie, il était plutôt dans le petit, dans la miniature. Alors c'était drôle parce que c'est une tendance, je pense, qu'il avait depuis longtemps. Parce que parfois, il parlait dessin, évidemment, avec Joseph Gilin, avec Gigé. Chez qui il avait passé à peu près 18 mois avec Maurice et Willy en 1946, et avec lequel il avait voyagé aux États-Unis. Et parfois, Joseph lui disait mais tu fais des ratchacha. Et des ratchacha, c'est des petites choses comme ça. Alors que Joseph Gilin était peintre tout aussi bien que dessinateur, et il était dans la. Voilà, il faisait des choses plus.
Monumentales.
Plus monumentales.
Vous parliez tout à l'heure, Isabelle, de l'esprit Gaston. Est-ce que cet esprit, en fait, continue à souffler dans le travail d'autres dessinateurs, de jeunes dessinateurs ? Est-ce que vous voyez parfois une œuvre qui fait un clin d'œil, en fait, à celle de votre père, où vous vous dites que oui, ça pourrait être un Gaston des temps modernes ?
Non, je connais assez peu je connais un peu la bande dessinée, ce qui se fait actuellement, mais j'ai pas une vue assez panoramique pour pouvoir avoir une réflexion pareille. Peut-être que toi ou Sergio, vous avez.
Moi, mon sentiment, c'est que Gaston Lagaffe est unique dans la bande dessinée, donc on retrouve évidemment des influences, mais. Moi, je pense que c'est vraiment une œuvre unique et une vision unique qui est celle de son créateur. C'est vraiment très lié. Gaston et André Franquin semblent être vraiment liés par le cœur. Et c'est ça qui transparaît à travers les 900 gags. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut voir la mécanique du gag. C'est quoi ? À la fin, Prunel reçoit la boule de bowling sur la tête. Si on explique un gag comme ça... Ça n'est ni drôle ni intéressant. Par contre, la planche déjà est intense parce qu'il y a une vie et parce qu'il y a une perception de la vie dedans. Et puis dans le concert de planche, on se dit ah oui, mais il y a une vision. Il y a une vision de ah, il faut mettre les choses là, mais on le reçoit quand même sur la tête. Il y a une vision de Gaston qui. C'est ça qui est génial, c'est que c'est un anti-héros, c'est qu'il est anti-establishment, mais sans être. Pour le moins du monde revendicatif, il fait ça par naïveté, dans l'humour et dans la gentillesse. C'est ça qui est incroyable.
On aurait dit le mot de la fin.
Une question.
Une question pour Isabelle Franquin. Pour revenir un petit peu sur la notion de mouvement, puisque effectivement, comme on dit tout à l'heure, Franquin est sans doute celui qui a le mieux su exprimer dans, en bande dessinée d'humour, cette notion de mouvement. Vous disiez qu'il faisait parfois poser ses camarades d'atelier, mais est-ce qu'à la maison, il prenait aussi, s'inspirait de vous, sa fille, quand elle bougeait ou pas? Ou est-ce qu'il était... Là, il redevenait un papa comme les autres?
Je ne me souviens pas qu'il m'ait jamais fait poser pour quoi que ce soit. Non. Il y a quelque chose qu'il faisait en revanche, c'est qu'il demandait, comme il était très soucieux de la lisibilité immédiate d'une case ou d'une planche ou d'un gag, eh bien en fait, quand il faisait son crayonné, même après en ayant silhouetté, il me demandait « Et qu'est-ce qui fait le personnage, là ?» Et donc, je lui disais ce que moi, je voyais. Alors, c'est un truc qui ferait un peu sauter n'importe quel amateur quand je lui disais quelque chose, quand je lui décrivais l'action, mais que cette action ne correspondait pas à ce qu'il avait voulu exprimer, ben, il gommait. Il gommait tout le dessin. C'est une drôle de sensation a posteriori de voir qu'en fait une simple parole d'enfant faisait en sorte que alors ça ne va pas, je recommence. Ceci dit, il prenait énormément de photos aussi, de documentation pour les décors. Il y a énormément de photos qu'il a fait dans des matchs de football. Mais particulièrement, il ne m'a jamais pris comme modèle.
Et votre chat, oui?
Le chat, oui. Oui, oui, tout à fait. Le chat, oui.
La mouette?
On n'avait pas de mouette. Alors, il avait une grande fascination pour les singes. Il adorait les singes. Il aurait passé des heures dans la section singes de n'importe quel zoo. Et je me rappelle, on était souvent en vacances à Knokke, et il y avait un petit zoo à Heist, et il avait vraiment, chaque fois qu'on allait en vacances, au moins une fois par semaine, il passait par le zoo, il allait voir le vieux chimpanzé, et il était fasciné par le vieux chimpanzé. Et c'est un animal qu'il a vraiment beaucoup fasciné, le singe, le gorille, on le voit bien dans ses planches. Et il avait très fort envie lui-même d'avoir un singe. Et ma mère lui a dit de manière assez péremptoire, c'est le singe ou moi. Voilà. Ma mère a gagné.
Bonsoir. Je voulais juste demander s'il restait encore des dessins inédits de Franquin concernant le marsupilami ou autre. Est-ce qu'il lui arrivait de faire des dessins, on va dire, spontanés au cours de ces rencontres, par exemple?
Il dessinait tout le temps, il dessinait souvent. Il a beaucoup jeté. Il a jeté beaucoup de dessins qu'il jugeait, lui, ratés. Et bon, c'est toujours amusant, parce que parfois, il y a des rescapés de poubelles. Et les rescapés de poubelles, on se dit, ah bon, ce dessin était raté. Voilà. On découvre encore parfois des inédits. Notamment, il avait fait une très très belle campagne. Il avait participé à une campagne de Saint-Nicolas organisée par les magasins Le Bon Marché à Bruxelles. Et c'était toute une vitrine qui mettait en scène le château de Champignac, qui devenait le théâtre de fabrication de jouets pour la Saint-Nicolas.
Marsupilami en latex.
Voilà. Et ce sont des dessins, des grands dessins, puisque c'est à peu près de cette dimension-là, en couleur directe, qu'il a fait pour montrer... c'était des décors de vitrine, en fait. C'était censé être des décors de vitrine. Et il avait fait tout un travail préparatoire pour l'élaboration de ces vitrines. Et tout est indiqué avec un luxe de détails, un souci de la couleur, du détail. Et en fait, on a retrouvé... Ce sont des gens qui ont retrouvé ça dans les affaires d'un vieil oncle ou d'un grand-père.
Quelqu'un qui avait travaillé chez Dupuis.
Voilà.
Donc ils ont vidé le grenier, puis il y avait un rouleau dans un tiroir. Ils ont vu, et c'était.
Non, ils ont d'abord jeté le rouleau. Et le rouleau s'est défait dans la poubelle.
Encore
il a
mieux.
Vu que, en fait, il y avait des, ils ont vu qu'il y avait des dessins dans le rouleau. Donc ils ont enlevé les dessins de la poubelle. Et c'est ainsi qu'on a pu retrouver ces dessins qui ont été vendus depuis lors à d'heureux collectionneurs.
Et quelques années plus tôt, on avait vu ces dessins sous forme de photos.
Oui,
donc
noir
on
et
pensait
blanc.
Que c'était des lavis.
Oui, parce que les photos étaient en noir et blanc. Et ça tenait très très bien le coup, même sous forme de lavis. On n'aurait jamais imaginé qu'il y avait de la couleur en dessous. Et effectivement, il y avait de la couleur en dessous. Alors bon, on les a scannés, scan haute définition, et on peut les reproduire.
Et puis il y a aussi, dans les dessins inédits, il y a toutes les dédicaces qu'il a faites. De la plus simple, où il y a une silhouette avec une signature, à parfois des dessins extrêmement élaborés, en couleur.
Celui-là n'est pas mal. Ceci est une dédicace, en fait. Donc, tu connais le possesseur de cette dédicace, tu ne te rappelles pas, c'est le docteur, machin, truc.
Et donc, bref. Oui, il doit y avoir plein d'inédits encore.
Je crois que c'est...
Non, ouais. Je sais pas.
Oui, bonsoir.
Donc, c'est une dédicace assez élaborée et qui... Ça nous arrange bien parce que ça fait une très belle couverture.
Oui,
oui bonsoir. Moi, j'ai une question concernant... je suis là. J'ai une question concernant donc Gaston, bien sûr, mais aussi un lien avec un autre personnage donc de Franquin. Parce que je trouvais qu'il avait une démarche assez moderne par rapport au fait de passer de Gaston, qui est donc un citadin, à Marsupilami, qui est un animal qui passe dans la nature. Alors, je me demandais s'il y avait une continuité en fait, du personnage de Gaston dans Marsupilami, ou pas du tout, ou si c'était une évolution liée à son goût pour les animaux, la nature, enfin, ou les singes, peut-être.
C'est son goût pour les animaux, la nature, les singes, et le Marsupilami est largement antérieur à Gaston, puisqu'il voit le jour dans Spirou et les héritiers, qui date de...
1951.
Yes, Sergio, one point. Et c'est vrai qu'il y a une parenté avec le gros nez du marsupilami et le gros nez de Gaston. La forme du visage. Le marsupilami est tout de même un peu plus plati.
Oui. Ouais. Je me rappelle que quand on allait aux dédicaces, on ne savait pas s'il allait faire un marsupilami ou une tête de Gaston.
C'est vrai.
Il avait le nez et le visage.
Ouais. Il y a peut-être aussi quelque chose qui les rassemble. Ils ont tous les deux un côté instinctif.
C'est vrai.
Marsupilami, forcément, c'est un animal, donc il n'est qu'instinct, mais Gaston Lagaffe, il suit son instinct aussi pour dire « je travaille maintenant, et puis je me repose à tel moment, et puis j'invente ça ».
Les gaffes, entre guillemets, du marsupilami sont pour le marsupilami des choses tout à fait normales. Quand il délivre le gorille dans le dictateur et le champignon, le gorille qui est en cage avec le marsupilami dans la ménagerie, eh bien en fait le marsupilami voit le gorille qui s'ennuie et que faire, donc il le délivre parce que le marsupilami s'ennuie aussi, et donc il va emmener le gorille à l'extérieur et ils vont avoir une vie normale au lieu d'être dans des cages, ce qui est tout à fait anormal.
Le mot de la fin pour le Benjamin de nos spectateurs.
Bonsoir, mais est-ce que pas Franquin, il aimait bien Hergé?
Ça, c'est une super bonne question. Eh bien, en fait, on n'a eu qu'un album d'Hergé en tout et pour tout durant toute mon enfance. C'était Le Trésor de Rackham le Rouge. Je ne me souviens pas qu'il l'ait jamais ouvert. Je ne me souviens pas qu'il me l'ait jamais raconté. Je ne me souviens pas que je ne lui ai jamais demandé qu'il me le raconte. Donc il avait une certaine indifférence au travail d'Hergé. Il ne le regardait pas souvent. C'était quelqu'un qui lisait énormément de bandes dessinées. Il lisait beaucoup de bandes dessinées américaines. Il lisait beaucoup de journaux de bandes dessinées américaines, un journal américain qui s'appelle Mad. Et puis il lisait aussi beaucoup
de livres de ses confrères, mais Hergé, je n'ai jamais vu un intérêt ou une passion quelconque pour Hergé. C'est une très bonne question. C'est une question intéressante parce que souvent on présente Hergé comme le père de la bande dessinée belge, comme un espèce de démiurge par lequel tout a commencé. Et ce n'est pas vrai. Déjà dans l'enfance de mon père, ses références, les journaux qu'il aimait lire, c'était beaucoup de bandes dessinées américaines. Mais c'était ça qui était, c'est ça qui paraissait à l'époque. Et c'est intéressant aussi de savoir les journaux qui paraissaient à l'époque, ce que pouvaient lire les auteurs de l'époque, les futurs auteurs quand ils étaient petits. Alors Hergé, il faut bien dire aussi qu'il est né en 1907 et mon père est né en 1924. Donc c'est pas du tout la même génération, c'est pas du tout la même perception du monde. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi. Hergé est très sérieux aussi. Et mon père avait un besoin éperdu de rire et un besoin éperdu de fantaisie. Et je pense qu'il ne le retrouverait pas du tout dans Tintin. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous. Jérémy, à toi le mot de la fin.
Oui, merci à tous les quatre et bravo.
Merci.
C'était passionnant. Et merci pour toutes ces questions aussi, parce que ça a beaucoup apporté. Enfin, c'est agréable aussi d'avoir des séances comme ça aussi vivantes. La transition est toute trouvée aussi avec la prochaine et dernière séance de notre cycle de programmation associée, puisqu'on va on va s'associer justement avec le Centre Wallonie-Bruxelles et un peu interroger la BD franco-belge. Qu'est-ce que c'est que ce concept dans l'histoire et aussi est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui, la BD contemporaine belge de langue française ou franco-belge. Donc rendez-vous le 20 mars pour cette séance. Par ailleurs, je vous invite évidemment à visiter ou revisiter l'expo si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit. Et ça se trouve au niveau 2 de la bibliothèque. On vous y accueillera avec plaisir. Cette séance a été filmée, donc sera disponible en ligne d'ici quelques jours. Et puis vous pouvez aussi également vous rendre à la librairie Flammarion pour trouver un certain nombre d'ouvrages dont on a parlé ce soir, et notamment le catalogue de l'exposition, publié chez Dupuis. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et merci d'être venus. Merci.